Des FCR a eu lieu hier. C'est le gouverneur du Darfour, Ahmad Mohamed Ahmed. Il a annoncé sa désertion en direct sur une chaîne de télévision saoudienne.
Le seuil des 40 degrés en passe d'être franchi dans le sud de la France aujourd'hui avec des températures records encore attendues.
Une cinquième vague de chaleur qui va toucher toute l'Europe. Alors au-delà des victimes qui vivent la canicule dans leur chair, l'économie elle aussi est affectée. Selon la ministre française de la transition écologique, les canicules à répétition qu'a connu le pays cette année pourrait coûter entre 10 à 15 milliards d'euros. Mais il faut rester prudent sur ce calcul, Pierre-Olivier, car chiffrer le coût d'un épisode météorologique est un exercice difficile.
Première difficulté pour calculer combien coûte une canicule, il faut prendre en compte ses effets directs et indirects sur l'économie. Pas toujours facile à quantifier, Pascal Delima, chef économiste chez BKMC.
Les coûts directs, c'est les dommages qui sont directement liés à la canicule, par exemple la baisse des rendements agricoles, une surconsommation électrique, ça c'est vraiment des coûts directs. Et puis ensuite, il y a des coûts indirects qui sont des effets en cascade dans le reste de l'économie. Puis on prend l'exemple d'une récolte. Si une récolte diminue, les prix alimentaires vont augmenter. C'est un impact indirect.
Autre difficulté, calculer le manque à gagner par rapport à une année sans canicule. Là encore, les indicateurs comportent des marges d'erreur.
Les méthodes aujourd'hui qu'on utilise, c'est d'imaginer la production française si cette canicule n'avait pas eu lieu. Donc on compare les mêmes territoires pendant des périodes chaudes, on compare des productivités d'entreprises qui sont exposées de la même façon. Il y a des marges d'erreur forcément. On peut produire un ordre de grandeur crédible, mais il n'existe pas un chiffre unique du coût des canicules et attention.
Preuve de la complexité à chiffrer le coût d'une canicule, l'INSEE a refusé de confirmer les chiffres avancés par Monique Barbu.
Pierre-Olivier, et puis on termine, Candice, avec une affaire turque sortie hier en salle sur les écrans français.
Une histoire de statut social et de compromission. Sophie Torlotin, le cinéaste, Hüseyin Aydin Görsoy signe aussi un film, un thriller tendu sur une communauté peu représentée en France.
Elle refuse de bosser. Radio G. www.radio-g.fr
Vous avez dit éclectisme, vous avez raison d'écouter Savourer nos différences de 8h à 9h du lundi au vendredi sur Radio G.
Bonjour l'Anjou, bonjour le Maine-et-Loire, le soleil est déjà bien installé et vous êtes sur les ondes angevines, celles qui ne prennent jamais de pause. On espère que vous avez bien dormi parce que nous, écoutez, voilà, on est dispo pour cette nouvelle matinée avec vous. Alors, fidèle au poste, tous les jours de la semaine, n'hésitez pas à nous écouter de 8h à 9h, même quand la ville tourne au ralenti pour l'été. Certains sont peut-être en train de rouler rue Bressigny ou en cherchant une place à l'ombre quelque part, pendant que d'autres profitent déjà pleinement du parc de Pignerolles. Bien où vous soyez, on vous a contacté une petite heure de radio, je vous en dis que ça. Vous aurez bien sûr votre horoscope pour savoir ce qui va se passer aujourd'hui. Vous aurez votre épisode de scandale, bien sûr, épisode inédit, complet, qui sera diffusé en fin d'émission pour un voyage dans les plus grandes affaires qui ont fait la une. On va rire également avec la drôle de vie de Léona Graal, comme tous les jours. Et puis bien sûr, le cœur de l'émission, les extraits d'hier et d'aujourd'hui, la musique éclectique de Radio G, et puis ces jeux pour apprendre ensemble. Voilà. Eh bien, on va commencer tout de suite avec la météo. Comme ça, on va savoir quelle température il fait. Mais je pense que ça va bien se passer. On chausse les tongs ? Allez, on prépare le thé glacé. Direction la météo. Bonjour et bienvenue dans Savourer nos différences.
Fouillons dans les archives de Radio G et savourons nos différences de bon matin, du lundi au vendredi.
Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Radio G. En ce moment, à Angers, il fait 22 degrés. Pour ce matin, le ciel sera dégagé. Avec 25 degrés affichés, les premiers maillots de bain sortent des armoires. Cet après-midi, profitez d'un ciel parfaitement dégagé. Le mercure marquera 38 degrés, une chaleur exceptionnelle. Ce soir, le ciel restera parfaitement dégagé. Le mercure marquera 38 degrés, une chaleur exceptionnelle.
C'était la météo pour aujourd'hui. On vous souhaite une belle journée.
Il y a plein de moyens de nous écouter, l'AFM et ses 101.5, le DAB+, ou le site internet radio-g.fr. Ça vous permet de commencer la journée du bon pied en écoutant par exemple votre horoscope, dont voici la première partie.
Verseau.
Vous traversez une renaissance. Bon, c'est la troisième cette année.
Gémeaux.
tout va bien de votre côté. C'est suspect. Enfin, profitez-en.
Balance.
Belle réussite à venir sur un dossier important. Profitez de ce moment rare, savourez-le pleinement.
Taureau.
Vous gérez la pression avec maestria. Ou vous refoulez avec talent, même résultat.
Bélier.
Vos projets prennent forme. Une forme étrange, mais une forme.
Scorpion.
Excellente forme en général. Profitez-en aujourd'hui.
Un moment de pur divertissement maintenant dans Savourer nos différences. C'est le moment de rire avec Léona Gral et sa drôle de vie.
La drôle de vie, la drôle de vie, la drôle de vie.
Les acteurs de films d'auteur sont tellement méconnus qu'il est presque impossible de les croiser dans les médias. Mais aujourd'hui, l'équipe de La Drôle de Vie a réalisé l'impossible. Nous avons interviewé l'acteur le moins connu du monde.
Notre invité cette semaine, le comédien, metteur en scène, réalisateur, scénariste, charcutier, dentiste, maître nageur et éleveur de mouches en Alaska, mais surtout l'acteur le plus ignoré au monde. Notamment méconnu pour ne pas avoir joué dans les plus grands films de cinéma. Monsieur Alain Connu, bonsoir.
Bonsoir. En passant, je préfère que vous m'appeliez par mon nom complet.
Bah, Alain Connu, c'est bien votre nom.
Ouais, mais c'est la version courte. Mon nom complet, c'est Alain Connu, Durand, Moreau, Lefebvre, Laurent Petit, Dubois, Morel, Fournier, Bonnet, Dupont, Lambert, Jacquet, Rousseau, Le Grand, Gauthier, Robin, Clément, Nicolas, Roussel, Marchand, Duval, Dumont, Blanchard.
Merci Alain. Alors vous êtes l'acteur dont on n'entend jamais parler.
Tout à fait.
Oh, j'arrive pas à y croire, j'ai l'honneur d'avoir devant moi l'acteur le moins connu du monde.
Merci.
Celui qu'on ne voit jamais à la télé.
Arrêtez, vous me gênez.
Non mais soyez pas modeste, vous êtes quand même la personne dont tout le monde se fout.
Oh, vous êtes trop gentil.
D'ailleurs, je tenais à vous dire que je n'ai absolument pas vu votre dernier film au cinéma et j'ai adoré.
Merci, ça me touche.
Ça vous dérange si je prends une photo de vos narines en gros plan?
Mais pas du tout, allez-y.
Super, je vais l'encadrer dans mes toilettes.
Parfait,
merci.
Mais vous savez, je suis une personne totalement banale.
Non, là, je peux pas vous laisser dire ça.
Ah bah écoute.
En tout cas, personnellement, j'aime beaucoup ce que vous faites.
Merci beaucoup, c'est très gentil.
Non mais je vous assure, je me nourris tous les jours de votre travail.
Par nourrir, vous voulez dire que ça vous inspire?
Non, je veux dire que je mange vos films au petit-déj.
Ah bah écoutez, c'est apprécié.
Alain, ça fait quoi d'être totalement invisible aux yeux des autres?
Oh.
J'imagine que ça doit créer de la jalousie chez certaines personnes, notamment lorsque vous ne vous faites pas reconnaître dans la rue, par exemple.
Ah ça, c'est le plus insupportable.
C'est vrai.
Mais à force de se faire ignorer, on finit par s'y habituer.
Ouais.
En faisant ce métier, on est obligé de s'y préparer.
Et est-ce que vous connaissez personnellement d'autres gens pas connus comme vous?
Bien sûr, j'en connais plein.
Qui ça? Dites-nous, on veut savoir.
Par exemple, mon cousin.
Oh.
Ou encore la poissonnière de la rue Velpeau.
Incroyable.
Je pourrais en citer tellement d'autres. Comment fait-on pour devenir méconnu? Oh, c'est très simple. Vous savez, quand j'étais petit, ma mère ne croyait vraiment pas en moi.
Mm-hmm.
Mais mon père, lui, m'a toujours soutenu.
Ou d'ailleurs, je pense que maintenant, il peut vous lâcher.
Non, attends, papa.
En attendant que vous vous relevez, on écoute un flashback de votre enfance pour illustrer vos propos.
Alors comme ça, fiston, tu veux devenir un acteur méconnu?
C'est n'importe quoi, Alain, tu n'y arriveras jamais.
Un jour, je finirai par percer, vous verrez.
Tu as raison, mon fils, il faut persévérer.
Et même pas une semaine plus tard, je me suis mis à percer des trous dans ma chambre.
Oh, c'est tellement émouvant.
Ouais, j'étais sûr que j'allais percer.
C'est super que votre père vous ait encouragé.
Oui, on peut dire qu'il m'a vraiment porté malchance.
On va maintenant visionner un extrait de votre dernier film qui s'appelle...
Un soir pluvieux du mois de novembre.
Putain, rien que le nom, ça a pas du tout l'air chiant à mourir.
Non, vous allez voir, c'est très intéressant, il y a beaucoup d'action.
On regarde ça de suite.
Le mois de novembre.
Voilà, donc c'est un extrait de votre nouveau film,
voilà.
Et vous jouez le rôle du gars qui regarde par la fenêtre, c'est ça?
Non, moi je suis celui qui marche en arrière-plan, je sais pas si vous avez vu.
Pas du tout, mais vous avez quand même gagné un prix pour ce film, je crois.
Oui, j'ai obtenu le César du meilleur acteur qui marche dehors sous la pluie dans un film d'auteur dans la catégorie de dissimulation masculine.
Alain, cette interview touche à sa fin et je ne voudrais pas prendre trop de votre temps.
Oui,
je sais que en tant que star, vous devez être débordé.
Oh, c'est rien de le dire, hein. Je suis tellement débordé que tous les soirs quand je me couche, ma femme est obligée de me reborder.
En tout cas, merci de nous avoir accordé votre guitare électrique.
Au plaisir.
La drôle de vie.
Savourez nos différences, tous les jours de la semaine, sur Radio G.
Revenons aux origines des choses, avec cet extrait de l'émission CMA. On revient sur les origines des choses, et nous retrouvons maintenant celui qui arrive à surfer donc sans internet. Voici la chronique de Mathias.
Alors du coup, les origines du surf, alors... Quand j'ai fait ma chronique, comme je disais au début, j'ai fait une chronique sur le skateboard qui disait qu'en fait c'était tiré des surfeurs,
ouais,
qui voulaient s'entraîner l'hiver sur du skate. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir les origines du surf. Donc en regardant sur internet, j'ai vu que les origines du surf se situent dans le Pacifique.
Avec les vagues.
Avec les vagues.
Pour aller chercher où elles sont.
Donc c'est James Cook, le marin britannique, qui est la première personne à avoir vu un surfeur aux îles Sandwich. Alors, aux îles Sandwich, je me suis dit, c'est quoi
c'est des vraies îles.
Des îles Sandwich. Oui. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Existe, ouais.
Alors, c'est en fait, c'est les îles d'Hawaï, tout simplement, qui étaient appelées comme ça, les îles Sandwich. Donc lors de leur découverte par James Cook, je n'ai pas trouvé pourquoi c'était les îles Sandwich.
Parce qu'elles étaient entre deux.
Ouais.
Non, il y a un monsieur qui s'appelle Sandwich.
Ah ouais.
Oui. D'accord. Qui les a découvert. Je crois que c'est ça. Mais c'est pas du tout la chronique. Donc on va.
Voilà. Comme c'est intéressant. Enfin, j'ai trouvé l'anecdote assez drôle. Du coup, il a été tué par les indigènes. Donc ça, c'était moins drôle.
Ah, ils ont mangé un sandwich.
D'où le nom d'ailleurs.
D'où le nom. Voilà.
Peut-être. Peut-être qu'il y a une cause à effet. Je ne sais pas.
Mais il surfait sur quoi le monsieur alors? Et c'est des premières. Une planche
sur la mer. Alors, j'y viens. Donc,
vas-y.
Il a été tué peu après sa découverte. Il laissa sa place au lieutenant James King, qui fut le premier à relater dans le journal de bord la pratique du surf, telle qu'elle avait pu être observée à Kalakaua Bay. Alors,
oui, ne tournez
pas de reprononcer ça parce que c'est imprononçable, sur la grande île d'Hawaï. Mais l'histoire du surf commença réellement à Hawaï, puisque l'archipel est la première à médiatiser ce sport.
Okay.
C'est au 15e siècle que le surf était donc une pratique courante dans la population des îles hawaïennes.
Ah, 15e siècle, ça fait quand même un sacré bout de temps, surf, dites donc.
Ouais, ça fait vraiment.
Moi, je crois que c'était 20e, moi.
C'était quoi alors qu'ils avaient des planches.
Et alors, du coup, elle permettait en fait aux chefs de tribu qui défiaient les mers et les éléments sur des longues planches en bois de prouver leur puissance et leur supériorité. Et les Polynésiens, quant à eux, se mesuraient entre eux. Dans leur communauté.
D'accord.
Et alors, plus précisément, le surf a pendant longtemps été une partie intégrante de la culture hawaïenne, comme une pratique sociale et culturelle, presque religieuse même en fait. C'est un passe-temps qui permettait notamment de prouver ses qualités physiques, et la majorité des surfeurs pratiquaient sur des planches courtes nommées alaya, je sais pas si ça se prononce exactement comme ça,
d'accord.
En position couchée ou à genoux, et il n'y avait que les chefs qui distinguait socialement par la possession de très longues planches holo, dont la construction était très coûteuse et ritualisée, et qui pouvait en fait pratiquer.
Debout.
On pouvait tenir debout.
C'est les seuls où on pouvait tenir debout,
ouais,
d'accord.
Pas sur les autres. Donc la pratique en fait a été ensuite interdite lors des colonisations par les Américains, qui quand ils les voyaient en fait, comme ils étaient presque nus, tout ça, enfin voilà, ils ont ça les a choqués.
Oh. Voilà. Super. Donc,
c'est dommage quand même.
On n'empêche qu'ils ont repris la pratique après, oui. Du coup. Oui.
Alors, c'est Duc Kanoku.
Oui, les noms, on les croit.
Je cite. Qui fait réapparaître le sport en 1900 à un champion olympique de natation.
Ah, 20e siècle, d'accord.
Voilà, ça vient de. Ouais, il y a un bond dans le temps.
C'est
quand
ça,
même,
voilà, hein, c'est vraiment démocratisé plus tard. Ouais.
Celui-ci fait en fait une démonstration en Californie et en Australie pour donner une nouvelle impulsion au surf. Et c'est vrai que quand j'ai vu l'Australie, je me suis dit, oui. Dans ma tête, ça.
Les surfeurs d'Australie,
ouais,
tout de suite.
Ça m'a paru vachement.
Les kangourous sur les planches et tout. Et ouais.
Les kangourous sur les planches. Exact. Non, mais je sais pas pourquoi, ça m'a paru très familier.
Forcément.
Et donc, ça donnait une nouvelle impulsion au surf. Donc, après avoir découvert la beauté du surf.
C'est sûr que le kangourou, ça donne de l'impulsion.
Il est encore là-dessus. C'est bon, la vanne est passée, c'est
ça
bon. C'était nul.
Après avoir découvert donc la beauté du surf, l'écrivain Jack London publiera de nombreux articles sur ce sport encore méconnu du grand public. Le surf reprend alors peu à peu en Australie et aux États-Unis. On donnera sa passion malgré les guerres et les conflits. L'esprit du surf est né. Voilà.
Voilà.
C'est vraiment.
Et le mot surf alors, ça vient, c'est parce qu'on surfe. C'est en anglais, ça veut dire glisser peut-être.
Moi,
D'accord, ok. Non, c'est bon. Je poserai.
Non, je rigole. Non, je sais pas. J'ai pas pensé à regarder l'origine du mot.
Ok.
Alors, d'après vous, en fait, quand est apparu le surf en France?
Alors, on a donc dit début 20e, donc.
Non, les années 80.
Années 40,
années 80.
Années 40, 50.
Ah oui, amené par les Américains, remarque. C'est possible.
Années 50, effectivement.
Ouais, c'est ça.
Sur la côte basque, il y a le premier club Waikiki qui a été créé en 1950.
Waikiki.
Il n'y a que des vagues là-bas. Il n'y a que là-bas qu'il y a des vagues, des grosses vagues.
Ah, c'est sûr que le club de Mayenne, il y a moins de surf.
Et alors, la plus ancienne planche de surf connue à ce jour a été découverte en 1905 à Kohokena, sur l'île d'Hawaï, à l'intérieur d'un tombeau. Les archéologues pensent qu'il s'agisse de la sépulture d'une chefesse.
Une chef.
C'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment une. Plusieurs fois, c'est écrit
chef-esse.
Donc je pense que vraiment.
Alors c'est très étonnant, je ne connaissais pas le mot chef-esse.
Moi aussi, j'ai trouvé ça drôle, mais c'est écrit chef-esse.
Une chef-esse.
Alors je respecte vraiment.
C'est plus de l'inclusivité, ça.
Je respecte. Donc nommé Kaneamua, Numa, qui régnait au début en fait, du XIVe siècle, fabriqué dans le fond de l'arbre à pain. Alors pain, écrit pain comme du pain qui se mange.
Le site, à mon avis.
Oui, alors c'est un étudiant qui l'a fait, c'est le stagiaire de 3e qui l'a fait.
Non, mais il y a eu un lien et tout, mais j'ai trouvé ça trop bizarre. Ouais, j'ai dit, bon, bah, je prends. Moi,
c'est
prends.
Le site de Jean-Michel à peu près. C'est un site très très connu.
Ben non, mais en plus, il y avait plein de références de notées avec des liens. Enfin, vous savez,
il y avait juste un petit problème avec l'orthographe.
Ouais, mais peut-être. Bon, okay. Enfin, bon, bref. Il y avait cette planche qui était très vieille, de 1905, et c'était cool. Et voilà.
Et voilà.
C'est cool.
Très bien.
Et l'origine du mot surf?
Oui, ah, tu l'as trouvé sur le. Ah, mais est-ce que notre champion Wikipédia, forcément, qui a toujours son petit Wikipédia avec lui. Et donc, l'origine de surf?
Alors, le terme surf, en fait, prononcé surf, est apparu en français en 1952. C'est la troncation.
Ah, là, c'est la troncation. C'est la soirée de.
Oui, c'est la. C'est, je vais me coucher après,
ouais.
Je pense.
Bon, c'est le mélange des mots, ouais.
Et du nom composé anglo-américain, surf riding, introduit en 1926 et signifiant monter les vagues déferlantes.
Chevaucher les vagues.
Riding, chevaucher, surf.
Vous avez dit éclectisme, vous avez raison d'écouter Savourer nos différences de 8h à 9h du lundi au vendredi sur Radio G.
Le soleil des îles arrive avec ce titre proposé par Balade Intertropicale.
Écoutez un peu de compas sur les 105 et je vous dédie ce morceau, chers auditeurs et auditrices, connectés sur les 105, c'est pour vous. Que le compas. Eh bien, nous allons écouter New Vase, Palais Avem sur les 105.
Fouillons dans les archives de Radio G et savourons nos différences de bon matin, du lundi au vendredi.
Il est déjà 8h33 sur Radio G. Prêt à tester vos connaissances? Voici un extrait du QG, l'émission de quiz du mardi soir, où même une intelligence artificielle vient jouer avec nous.
QG, bienvenue.
Allez, un petit jingle et on arrive à la fin.
Oui, c'est parti.
Donc Laurent Ruquier,
ouais,
qui a fait une foison, je dirais, d'émission. Alors, quel est le jingle? Voilà. Quel était le nom de cette émission?
On a tout essayé. On y était avec Olivier. On assiste à l'émission.
On a tout essayé. Tu sais, parce qu'on n'est pas couché aussi.
Non.
Sinon, on ne demande qu'à en rire.
Non.
Sinon, on va gêner.
On peut raconter l'anecdote?
Vous êtes pas obligé.
Oh, bah, vous êtes... Alors là, maintenant que vous l'avez dit, vous êtes obligé. Pardon.
Ah, je ne sais pas laquelle tu disais.
Mais à l'époque, on était très jeunes.
Ah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, oui.
Vous avez une proposition indécente.
En fait, quand on arrive, on trie les gens. C'est-à-dire que les gens beaux sont mis derrière les invités.
C'est vrai.
Et ceux qui sont moins beaux, ils sont mis tout dans le fond.
Bah,
voilà. Donc nous, on ne sait pas trop. On était sur l'entrée.
Rappelez les toilettes.
Complètement à gauche. On ne sait pas trop. Effectivement.
On nous voyait.
On nous voyait bien parce que c'était là où rentraient les invités. Donc,
Il n'y a pas
Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis alors
Là, on est rétrogradé. On est tout au fond.
Maintenant, on ne fait plus des émissions. On va à la radio maintenant.
C'est vexant sinon.
On va à la radio. Partir.
Et c'est à cette émission-là qu'ils avaient quelqu'un qui avait fait une démo avec des sabres et ils ont pété les télés. Il y avait des télés qui étaient en bas, il y avait une démo avec deux sabres et le mec, il a ruiné complètement les gros écrans de télé qu'il y avait sur le plateau. Voilà.
Est-ce que vous vous souvenez de quel humoriste a émergé sur cette émission du coup et est devenu super cool?
Sur quelle émission?
Sur On a tout essayé.
Humoriste, il y a Florence Foresti.
Et ben voilà, elle n'était pas connue à l'époque et donc elle avait un petit sketch pareil aussi et c'est là où on la découvre et après il la refait venir.
Il y a Stevie qui est pas mal, qu'on a vu beaucoup.
Mais c'est
en humour, ouais, c'était Foresti.
Enfin là, en tout cas, on la connaissait pas avant cette émission, Florence. Et pour finir, je vous laisse écouter et on en parle ensuite. In the dream and time gone by. Alors, quel est le nom de cette femme ayant participé à l'émission anglaise Télé Britain Got Talent?
C'est Boyle.
Suzanne.
Alors,
Suzanne,
proposition.
Oui, pardon, vas-y.
Bah non, il n'y a pas de proposition, du coup j'ai la réponse.
Suzanne Boyle.
Suzanne Boyle. Alors, est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que vous pouvez en dire de Suzanne Boyle? Moi, je découvrais un petit peu, j'étais assez épatée de...
Elle est arrivée sur scène.
Une petite vieille, on se demandait ce que c'était.
Alors, petite vieille, vous savez quel âge elle a quand elle se présente?
Ils lui ont demandé quel âge vous avez. Je crois qu'elle a répondu genre 42, 43.
48 ans.
Ils ont été super surpris parce qu'ils lui donnaient quasiment plus de 60 ans.
Effectivement, un look un petit peu vieillot. Elle avait des bouclettes. Enfin, un peu rétro. C'est vrai qu'ils ont...
Un peu mamie,
c'est vrai. Et du coup, effectivement, il y a les trois juges qui commencent à la regarder un peu en se moquant. Elle dit que son rêve, c'est de devenir une chanteuse apparemment très connue aux États-Unis, en Angleterre, je ne connaissais pas.
Ouais.
Donc, ils se moquent légèrement. Tout le monde rigole sous cap. Et là, elle commence à chanter. Puis, en plus, c'est vrai qu'elle le fait très simplement. Elle dit, mon rêve, c'est de chanter. Je chante depuis que j'ai 12 ans. Et voilà, je tente ma chance ce soir. Elle commence à chanter. Et là, ils tombent tous avec... en surprise et le public réagit et effectivement elle va avoir Suzanne Boyle, peut-être ça vous parle pas mais allez voir, en tout cas elle va exploser, enfin en tout cas la vidéo de sa représentation va exploser en une semaine, plus de 100 millions de vues sur YouTube semaine, apparemment c'est énorme. Je me rends
compte. Bienvenue.
Des extraits, des souvenirs, des archives, de la musique, c'est Savourer nos différences sur Radio G, du lundi au vendredi, de 8h à 9h.
Direction le continent africain, avec cette sélection de Paul d'Air d'Afrique.
avec le groupe Tofan, un duo musical originaire d'Afrique qui a vu le jour en 2005. Le groupe composé de Barabas et Maître Gims est devenu au fil des années une véritable institution de la musique africaine, conquérant un public international avec leur mélange unique de rythmes africains et de sonorités modernes. Leur musique, à la fois énergique et engageante, transcende les générations, les cultures et est souvent décrite comme une célébration de la vie, de l'amour et de l'amitié. Dordoran, c'est le single que nous avons choisi pour vous et pour s'échauffer avant de rentrer en scène. C'est parti. L'entraînement, on se chauffe. Hey, c'est le Tofa Group, un groupe togolais qui est sur la piste pour ouvrir les portes de la grande discothèque d'Africa.
Hey. Avant le match, on va s'échauffer. Échauffement, 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 échauffement.
Savourez nos différences, l'émission qui vous fait découvrir Radio G tous les jours de la semaine, de 8h à 9h.
8h40. Vous êtes toujours dans Savourer nos différences et Radio G, ce sont aussi des émissions spéciales, uniques, souvent en public, toujours avec la bonne humeur des animateurs de la station. Et on vous le prouve maintenant.
Pareil, sauf que là, c'est concocté par les soins informatiques. Trois chansons jeunes, de moins de 5 ans. Alors,
on va les écouter, ouais.
Ouais, et je vous donnerai des indices si vous n'arrivez pas à trouver.
D'accord.
C'est parti, les trois extraits sont à la suite.
C'est à l'envers. Ça fait la même chose à l'envers. Alors, qu'à l'endroit, c'est étonnant.
Juste,
ça.
Juste, est-ce que tu as les vraies chansons ou pas?
Alors, est-ce que j'ai les vraies chansons après? Oui, je dois. Je sais. Oui, si, je les ai.
Alors,
oui.
Le premier extrait. Personne. Ed Sheeran.
Ok, alors.
La deuxième a été très compliquée.
C'est Shawn Mendes, non?
Oui, c'est laquelle? Oh, tu peux la mettre, hein.
Il a été massacré un peu, le pauvre. Hein.
Ouais, franchement, je m'excuse encore une fois.
Alors, la troisième, c'est étonnant, c'est à l'envers, mais ça, oui, ça ressemble, ça marche, vraiment, hein. À l'endroit, ça marche,
alors,
aussi.
Alors, Alban a trouvé.
C'est... Je sais pas c'est laquelle, mais ça vient de La La Land.
Oui.
Alors, vas-y, tu peux la mettre. C'est le thème de Mia et Sébastien dans La La Land.
film sorti il y a récemment qui a gagné plein de prix, Golden Globes.
Tout à fait. Alors c'est un copier-coller des Demoiselles de Rochefort quand même, mais c'est vraiment très bon.
On en discutera après.
Ouais. Très bien.
Bah voilà.
Eh ben on a réussi à trouver. Moi je dis c'est très bien. On est très fort.
Vous avez dit éclectisme. Vous avez raison d'écouter savourer nos différences.
Les chroniqueurs de ce week-end nous proposent maintenant leur sélection musicale.
Je vous propose d'écouter Crossing Field de Lisa. Et on revient juste après ça.
Fouillons dans les archives de Radio G et savourons nos différences.
8h47 sur Radio G. Radio G a osé l'impensable avec Dans mon tiroir, laisser les auditeurs stopper les chroniques en direct. Résultat, des moments mémorables comme celui-ci.
Passionnant, Florian, vas-y.
Oui, alors moi, je vais vous apprendre le secret de la jeunesse.
Ah, ben voilà,
comment faire pour rajeunir
la beauté éternelle. Eh ben,
la beauté éternelle, tout à fait.
Fréquente Manuela au quotidien.
Eh ben, alors, je vais plutôt vous parler de...
Il y en a un qui fait... je ne comprends pas. Excuse-moi, Florian.
Je vais plutôt vous parler de Monsieur Foronoff.
Qu'est-ce qu'il a, Monsieur Foronoff?
Alors, dans les années 20, du coup, c'est un chirurgien qui a inventé une technique imparable pour rajeunir.
Ah oui, c'est la triche, quoi.
Alors, vas-y.
Et oui, on est puisque son remède était à base de glandes de singe.
De glandes. Ah.
C'est-à-dire qu'il a, il a fait une technique pour greffer.
Quelles glandes?
Des glandes, bah, les glandes de singe.
Les glandes du haut,
des testicules
du
de singe, tout à fait.
Ah, des testicules.
C'est
pour
des glandes
greffer
du bas.
Les testicules. Et donc,
mais il a greffé où ça?
Ah.
Ah, bah, alors ça, l'histoire le dit pas.
Il les greffe sur les gens?
Il les greffe sur les gens, voilà.
Non.
Alors, c'était censé rajeunir, mais.
Ça rend moche.
Sur le front.
Sur le front.
Sur le front.
Comme ça, tu vois bien.
Alors, c'était censé rajeunir, mais en fait, son invention, si on peut appeler ça comme ça, a été un peu détournée, puisque les personnes s'en sont saisies pour le désir sexuel, apparemment.
Ah, ils ont dit, oui.
Ça pourrait fonctionner. Voilà. Donc, ça a eu un. Donc, ça a eu un succès assez phénoménal. Bon, par contre, il est quand même passé du statut de médecin. À celui de charlatan quand même, parce que
ça marche
quand même pas, ça marche.
Laissez les singes tranquilles.
Ouais. C'était vraiment très intéressant.
Ok.
Savourez nos différences sur Radio G 101.5 FM.
Savourez nos différences vous fait découvrir le passé, mais aussi l'avenir. Voici la deuxième partie de l'horoscope du jour.
Poisson.
Vénus en carré avec Neptune brouille les pistes sentimentales. Votre partenaire aussi.
Capricorne.
Vous brillez en réunion. Pensez juste à éteindre votre micro avant les commentaires.
Cancer.
Votre âme sœur existe. Elle a juste choisi un autre fuseau horaire et un autre continent.
Lion.
Le cosmos vous envoie des signes. Apprenez d'abord à lire, ça aidera.
Sagittaire.
Saturne soigne vos excès, à sa manière, brutale, mais efficace.
Vierge.
Vos efforts vont enfin payer, en monnaie de singe, mais payer quand même.
Ce serait un scandale de rater votre chronique quotidienne Scandale sur Radio G. Revenons ensemble sur une histoire qui a défrayé les chroniques.
Comment l'animatrice la plus populaire de France a tout perdu ? Pour 45 centimes.
Non, mais c'est un scandale.
C'est scandaleux.
Non, mais c'est un scandale.
C'est un scandale.
Quelle indignité.
Un anneau de métal. Un vulgaire anneau de métal qui coûtait 45 centimes à fabriquer. Il était vendu plusieurs centaines de francs, un taux de marge à faire pâlir un dealer de cocaïne. Et pour vous convaincre qu'il allait changer votre vie, on avait recruté une des animatrices les plus populaires de France, celle que des millions de téléspectateurs regardaient chaque midi depuis 13 ans. La bague de Ré, l'escroquerie qui a transformé la reine du petit écran en prévenue numéro 1 du tribunal de grâce. Un scandale qui aurait pu être grotesque et léger, mais qui a fini par dévorer une carrière, une réputation et quelques millions de francs. L'affaire de la Batte de Ré et Daniel Gilbert, la grande duduche. Dans les années 70, Daniel Gilbert est partout. Pendant 13 ans, elle anime Midi Première sur TF1, l'émission du déjeuner. Celle que regardent les ménagères, les retraités, les ouvriers. Une voix, un visage, une présentation rassurante au cœur du foyer français. On l'appelle la grande duduche. Des millions de téléspectateurs, une popularité immense. Et puis vient 1981. Mitterrand bat Giscard. La gauche arrive au pouvoir. Daniel Gilbert, qui n'avait jamais caché son soutien au président sortant, elle l'avait même invité sur son émission pour participer à des comités de soutien, est remercié de TF1. Son dernier plateau, le 1er avril 1982. 13 ans d'antenne, balayé en quelques semaines pour des raisons politiques. Commence alors ce qu'on appelle poliment une traversée du désert. Des tentatives politiques ratées, des projets avorter, et pour survivre, des animations dans des centres commerciaux. L'animatrice du midi distribue des prospectus dans les galeries marchandes. En 1989, Danielle Gilbert a 46 ans. Elle cherche désespérément une porte de sortie. Et quelqu'un vient frapper à sa porte avec une proposition. La bague de Ré, un anneau censé venir des pharaons de l'Égypte ancienne, censé porter bonheur, attirer la chance, protéger son porteur de tous les malheurs de l'existence. En réalité, un anneau de métal acheté 45 centimes pièce par le distributeur, revendu plusieurs centaines de francs au grand public. Le PDG de la société distributrice a eu une idée de génie. Pour que des millions de Français croient au pouvoir magique de ce bibelot, il faut un visage familier. Un visage de confiance. Et qui mieux que la grande biduche pour convaincre le téléspectateur ordinaire qu'un anneau de métal peut changer sa vie? Le contrat est simple. Elle témoigne des pouvoirs de la bague. Elle raconte comment elle a miraculeusement survécu à un accident de voiture grâce à la bague. Comment elle a retrouvé confiance en elle grâce à la bague. Elle prête son nom, son image, ses souvenirs. Contrepartie, 4 millions de francs. Pour prouver les pouvoirs de la bague, les promoteurs organisent des mises en scène soigneusement répétées, des démonstrations en direct présentées comme des preuves scientifiques des effets physiques de l'anneau. La supercherie est bien rodée, professionnelle, convaincante. Les commandes affluent, des dizaines de millions de Français achètent la bague de Ré. Et puis, les plaintes commencent à arriver. Des acheteurs qui attendent toujours que leur vie change, des familles qui ont dépensé leur argent pour un anneau qui ne fait rien, des magistrats qui s'intéressent à la chose. Le juge d'instruction Martiano, au tribunal de grâce, ouvre une enquête. Ce qu'on reproche, ce n'est pas simplement le non-remboursement des acheteurs insatisfaits. C'est d'avoir fait des manœuvres pour convaincre les gens d'acquérir la bague et d'avoir effectué une mise en scène pour prouver qu'elle avait des pouvoirs magiques. Le 6 septembre 1989, à l'aube, des policiers sonnent à la porte de l'appartement de Danielle Gilbert à Bourgogne-Billancourt. Elle est arrêtée, placée en garde à vue, puis transférée en avion.